des tactiques du diable. C'est que s'il ne peut pas nous empêcher d'évoquer Christ, au moins que ça soit soit un Christ un peu déformé ou un Christ auquel on ajoute d'autres choses. Certaines formes de patriotisme chrétien devient plus important que l'enseignement de Jésus lui-même.
Si on ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'on est en train soit de dire que c'est un menteur, un manipulateur, soit qu'il a perdu la tête, parce que lui-même s'est proclamé Fils de Dieu, lui-même s'est fait Dieu, il a dit avant Abraham, je suis, et il a dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit qu'il reviendra juger le monde. Tu ne peux pas dire que c'est une bonne personne qui a fait des belles choses, non. Soit tu crois que c'est un menteur, soit ce qu'il a dit est vraiment vrai, et dans ce cas-là, ça peut changer ta vie.
Bouddha a passé toute sa vie à chercher. La grande valeur, c'est il cherche. Mais il a passé toute sa vie à chercher. Ce qui est extraordinaire et étonnant avec Jésus-Christ, c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui cherche, on a quelqu'un qui ose dire « je suis ». Et je pense que là aussi, quelque part, c'est provocateur dans notre société, parce qu'aujourd'hui, si je dis « je suis en recherche spirituelle », tout le monde vous encourage. Si je dis « j'ai trouvé », non mais t'es vraiment, tu te prends pour qui?
Ouais.
Je crois que c'est le pasteur anglais Charles Spurgeon qui disait que voilà, un chrétien, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain gratuit. Une heure et demie le dimanche ne fait de personne un disciple.
Est-ce que tu penses qu'il y a des églises qui prêchent pas le Christ biblique?
J'ai le sentiment qu'il y a un éloignement du Christ des Écritures. Quand on a un Christ qui est uniquement là pour mon bien-être personnel. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune musulman qui s'était converti. Lui, le jour où il est devenu chrétien, c'était le début de tous ses problèmes.
Yo l'équipe, c'est ton gars Joe, et c'est toujours pour les 5 solas, pour le salut d'une seule âme, un seul Dieu, un seul homme, Christ, le Shiloh, Shalom, Salam à vous, et particulièrement à mon invité du jour, que j'ai la joie, l'honneur, le privilège d'accueillir, ça fait trop plaisir de t'avoir Manu, comment tu vas?
Très bien Jonathan, merci beaucoup, c'est une joie d'être avec toi.
Ouais, un plaisir partagé. Question de présentation, c'est le podcast Dévoué, dis-nous à quoi et en quoi tu es dévoué?
Alors, j'aurais envie de dire plutôt à qui, mais en tout cas, clairement à la personne de Jésus-Christ. Mmh. Il mérite toute ma dévotion et c'est à lui que je m'efforce d'être le plus dévoué à chaque instant. Bien sûr, il y a un dévouement aussi parce qu'il y a ma famille, à ma femme et mes filles, que j'aime et en qui je suis engagé pour être le meilleur reflet de Jésus pour elles. Et puis aussi, je pense, je peux ajouter à l'église où je sers. Je suis aussi pasteur et donc... Je m'efforce d'être dévoué à tous ces frères et sœurs que Dieu me confie en essayant d'être un bon modèle, un bon berger aussi, à l'image de mon Seigneur. Donc ça fait déjà beaucoup et j'ai besoin de grâce.
Waouh. Ben, gloire à Dieu et que Dieu t'accompagne dans toute cette mission qu'il te donne.
Merci Jonathan.
Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, on va parler de Christ. Parce que dans les 5 solas, il y a un sola particulier, c'est Solus Christus, c'est-à-dire en Christ seul. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qui est Christ déjà? De qui on parle quand on dit Christ? Et qui est Christ pour toi? Qui est Christ selon la Bible?
Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Je vais commencer peut-être avec Christ pour moi.
Ouais.
Et après, je vais pouvoir peut-être détailler aussi comment la Bible, justement, répond plus précisément à ces questions. Mais pour moi, étant né dans une famille non chrétienne, Solus Christus, ça ne signifiait rien, ça n'évoquait strictement rien. Voilà, si j'avais entendu cette expression-là, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Mmh. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 12 ans, j'ai la grâce de voir au travers de la guérison de ma mère, d'une dépression, de voir ce que l'amour de Christ est et en quoi il est encore d'actualité vivant. Les meilleurs amis de mes parents venaient de devenir chrétiens. Ma mère était absolument pas intéressée par la foi, toute notre famille était athée, très anticléricale. Mmh. Donc du coup, savoir que des gens deviennent chrétiens, c'était pas du tout notre tasse de thé. Et il se trouve que quand ma mère a fait cette dépression, bah, la seule famille qui a un peu proposé de l'aide concrète, c'était justement cette famille chrétienne, qui ont proposé à ma mère de venir passer bah, un peu de repos, c'était les vacances de Pâques, chez eux. Dès que ma mère est arrivée, elle leur a dit « Bon, Jésus, c'est chouette pour vous, mais moi, ça ne m'intéresse pas, donc s'il vous plaît, voilà, ne me bassinez pas avec ça. » Donc c'était aussi clair que ça.
Ouais,
donc elle a mis d'emblée les points sur les « i ». Et ils ont dit « Il n'y a pas de souci, tu nous connais, on ne te parle pas de Jésus, juste vois ce qu'on te propose. Puisque tu es venu pour 2 semaines, si au bout d'une semaine, tu ne vas pas mieux, laisse-nous juste te dire pourquoi on est devenu chrétien. Mmh. » Du coup, ma mère, pensant qu'une semaine serait suffisante pour aller beaucoup mieux, elle s'est dit « D'accord, dans une semaine, quoi. » Et puis, bah, il se trouve qu'en fait, elle était de plus en plus mal.
Ah, oui.
Et donc, quand on est un enfant de 12 ans, qu'on voit sa mère qui pleure sans cesse, un médecin qui vient, qui prescrit, bon, c'est quand même, c'est mystérieux, et en même temps, ça nous attriste, ça nous affecte. Et donc, c'était le cas pour moi. Mais pendant cette même première semaine, j'ai vu, pour la première fois, deux choses que j'ignorais. Une Bible. J'avais jamais vu ce livre de toute ma vie. Ah oui. J'ignorais le mot. J'avais vraiment aucune éducation religieuse. Et donc, j'ai découvert que ce livre était important. Et je me rappelle notamment d'une scène où je suis dans la cuisine. Barbara, ma marraine, quelque part de cœur, qui nous accueillait, cuisinait. Et puis, elle me dit, est-ce que tu peux me lire la Bible à voix haute pendant que je cuisine? Donc, il n'y avait pas encore les applications. Hein. Et du coup, je me suis mis à lire l'évangile de Matthieu pour elle, à voix haute.
Okay.
Et puis, on arrive et je commence à lire le sermon sur la montagne. Je ne savais pas que c'était le sermon sur la montagne, hein, mais j'arrive dans Matthieu 5, 6. Et puis, à un moment donné, je lis ces passages qui nous disent, voilà, ne vous inquiétez de rien, regardez les oiseaux, regardez les fleurs, Dieu prend soin d'elles. Donc, cessez de vous inquiéter, votre vie a plus de valeur. Et alors, je suis en train de lire ça, et moi, je le lis comme si elle m'avait demandé de lire un conte quelconque. Et elle se retourne et me dit, stop, ça, c'est le texte pour ta maman. Alors, c'était très bizarre parce que je n'ai pas compris sur le moment, mais en même temps, avec le recul, une chose que j'ai compris tout d'un coup, c'est qu'en fait, ce livre-là, c'était pas un livre, un roman qu'on lit, et puis ça y est, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo. Non, c'était un livre pour moi, pour nous, pour ma mère. Donc ça a été le début d'une interrogation, de se dire, mais en fait, quand je lis, c'est à moi que ces paroles s'adressent. Ça, c'était quelque chose qui a été semé à ce moment-là, avant même que je devienne chrétien. Ouais. Et la deuxième chose, c'est pendant cette même semaine, c'est qu'en fait, j'avais jamais vu des gens prier de toute ma vie. Et ils se mettaient dans la cuisine et priaient pour ma mère. Mais là, une fois de plus, quand vous n'avez aucune éducation religieuse, vous voyez des gens qui ferment les yeux et qui parlent, vous vous dites, à qui est-ce qu'ils parlent? Je ne sais pas forcément penser ça,
okay.
Mais je me suis dit, à qui est-ce qu'ils parlent?
Ouais, bah oui.
Mais la chose qui a été immédiate, c'est qu'en fait, j'entends des gens qui demandent à quelqu'un, à Dieu, de faire du bien à ma mère. Et moi, j'étais subjugué, je me disais, mais qui sont ces gens qui ont autant d'amour, qui nous accueillent pendant deux semaines, qui tiennent compte du fait que ma mère ne veut rien savoir sur Jésus, et qui pourtant demandent son bien. Et là, c'était vraiment le début du cheminement. Lors de la deuxième semaine, ma mère n'allant pas mieux, ils ont commencé à lire les textes des évangiles. Et comment, en fait, lorsque Jésus rencontrait des personnes, il savait toujours, en fait, quel était le problème derrière le problème, en fait, et s'adresser personnellement. Et donc, ma mère, lors de cette deuxième semaine, en fait, est devenue chrétienne. Et véritablement, j'ai vu ma mère sortir de sa chambre où elle passait son temps enfermée à pleurer. Ce n'était pas la même personne. Elle avait retrouvé une vie, une joie. En fait, elle avait réalisé qu'elle avait essayé de bâtir sa vie sans Jésus-Christ et de réussir, mais elle n'y arriverait pas sans lui. Donc, c'était le début pour moi de Christ seul, et oui, quelque part, de cette réalité que si quelqu'un peut sauver, changer une vie, lui, il le peut. Et donc, c'était le début de l'aventure pour moi sur le plan personnel.
Oui.
Après, il m'a fallu lire les Écritures et découvrir toutes ces affirmations. Mais en tout cas, voilà le départ personnel.
Ouais, justement, à ce moment-là, avant ça, pour toi, Christ, c'était personne. T'avais jamais entendu.
C'était même un sujet de moquerie, en fait.
Ah,
pour
oui.
Moi. Ouais, j'ai grandi avec les sketchs de Coluche, donc se moquer de la religion, se moquer de Jésus. J'ai dû le faire, je me rappelle d'une fille dont on s'était moqué parce qu'elle avait fait sa communion. Et donc, pour moi, tout ce qui était catholique, forcément, il fallait en rire.
Aujourd'hui, qui est Christ pour toi, alors? Où est-ce que ça t'a amené, tout ce chemin-là?
Il est tout, parce qu'en fait, justement, suite à ce premier pas, ouais, c'est que ce qui m'a émerveillé aujourd'hui encore, c'est que c'est comme une relation, et on bâtit des relations, et puis des fois, il y a des hauts et des bas, des déceptions. Mais en fait, c'est comme si, à chaque fois avec Jésus-Christ, je lis un texte, je lis une parole, et je fais mon pas de foi, et je vois que le sol, il est toujours solide. Et puis tu en fais un autre. Et en fait, au fur et à mesure de ma scolarité, des décisions importantes de la jeunesse, vers où on va s'orienter pour l'avenir, rechercher son conjoint, etc. En fait, d'étape en étape, j'ai constamment expérimenté la fidélité de Dieu. Donc en fait, aujourd'hui, il est tout dans le sens, je pourrais le dire de façon très théologique, il est mon Seigneur, il est mon Dieu, mais aussi il est mon ami le plus fidèle. Je ne conçois pas une journée sans passer mon temps à parler avec lui. Parce qu'il est là avec nous en ce moment, et que sa présence, il est esprit, et en même temps, il est plus qu'un ami, bien évidemment. Une des images qui me parle beaucoup du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est aussi, et que j'ai redécouvert ces dernières années en étant pasteur justement, c'est qu'il est aussi mon enseignant. Ça, c'est une facette qui m'a beaucoup aidé à grandir, c'est que Jésus parle souvent de maître et de disciple. Il est cet enseignant. Il m'apprend.
J'aimerais qu'on se pose la question justement, tu dis que Jésus est là au milieu de nous, qu'il t'entend, qu'il t'enseigne, qu'il est ton ami. Est-ce qu'on pourrait penser que finalement on est en train de s'inventer un ami imaginaire? D'où ça vient? Quelle est la base pour se dire finalement on n'est pas fou quand on parle de Christ?
Alors là, c'est là où peut-être justement, ce qui peut être intéressant, c'est de... Quand je parle de Christ, je parle vraiment du Christ des Écritures. Mmh. Pas du Christ que j'ai envie de me fabriquer. Oui. C'est pas un espèce d'ami imaginaire qui aurait toutes les qualités que j'aurais envie qu'il ait. Mmh. Non, là, il faut revenir au Christ des Écritures. Mmh. Je pense que ça, c'est très important.
Et selon la Bible, qui est Christ? Parce que c'est un mot qu'on utilise là depuis le début, Christ. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc,
le mot Christ en grec veut dire « oint ». Okay. Oint, c'est l'idée de verser de l'huile, une onction sur une personne. Mmh. On appelait ça quelqu'un qui est oint. On le faisait pour des rois, on le faisait pour des prophètes, on le faisait pour des prêtres. Christ est en grec oint. Le mot hébreu, par contre, pour dire la même chose, c'est Messia.
Ouais, c'est ça.
Messia. Mmh. Mais en fait, on parle de Jésus.
Voilà, c'est ça. Quand on appelle Jésus Christ, c'est déjà une profession de foi, c'est ça?
Dans un certain sens,
on est déjà en train... Parce que, bon, même un non-chrétien, il peut se dire, oui, Jésus, il a existé. On dit aujourd'hui qu'on est en 2025 après Jésus.
Tout à fait.
Mais quand on dit Christ, on n'est pas en train de dire c'est juste un homme qui est venu, c'est le Messie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait?
En effet, il y a une partie dans la Bible où on lit justement la vie de Jésus-Christ, qui est le Nouveau Testament. Mais en fait, quand on lit cette partie-là, on découvre tout d'un coup qu'en fait, sa venue, sa naissance, est quelque chose qui était déjà annoncé. Et donc, il est un accomplissement, ou on pourrait dire, il est l'accomplissement de tout un ensemble d'annonces qu'on appelle parfois prophéties, donc d'événements, de paroles de personnes qui ont précédé sa venue, qui annoncent de différentes manières la venue de quelqu'un qui va accomplir un certain nombre de choses, qui porte en lui différentes promesses. Et c'est comme si tout d'un coup, vous avez plein de rayons qui convergent. Et on voit que c'est en Jésus qui incarne tous ces exaucements quelque part. Et là, on touche du coup maintenant à sa nature. Ouais. C'est qu'il est à la fois bel et bien homme par sa naissance sur Terre, mais il l'était et il préexistait. Et on découvre en fait qu'il est Dieu. Et
ça me fait penser à un passage dans Jean chapitre 5, où Jésus explique que si quelqu'un vient en son propre nom, finalement... Il n'y a pas de légitimité à l'accueillir et à croire en lui. Et il explique que lui, il ne vient pas en son propre nom. Il est non seulement l'accomplissement des Écritures, il dit aussi que Jean le Baptiste a parlé de lui, a annoncé sa venue. Il dit aussi que le Père lui-même témoigne. Donc, en parlant de Dieu, hein, il appelle Dieu son Père.
Tout à fait.
Donc, il se place en tant que fils de Dieu. Il dit que le Père lui-même témoigne en ma faveur. Il parle aussi des œuvres qu'il accomplit. Et ça, on pourrait en discuter un petit peu. Parce que quand on parle de Christ, encore une fois, c'est pas juste un ami imaginaire. Il y a une histoire derrière. Il y a réellement Jésus qui est venu, qui a marché sur terre et qui a accompli certaines œuvres qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Tout ça témoigne en sa faveur. Il y a des vraies bonnes raisons de croire en lui.
Tout à fait. Exactement. Avec les Écritures, on découvre que avant, j'ai commencé tout à l'heure avec l'expérience personnelle, mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on lit justement ces différents évangiles, on a tout d'un coup, on est face à une personne, on se rend compte que jamais personne n'a enseigné comme lui. C'est d'ailleurs une réaction de beaucoup de ceux qui l'écoutent, mais d'où lui vient cette autorité? D'où lui vient cette capacité de parler? Certains disent même, mais en fait, il a étudié nulle part. Donc en plus, c'est encore plus curieux qu'il puisse enseigner. Il y a même cette rare scène que l'on a de la jeunesse de Jésus, où à l'âge de 12 ans, il est au temple et il parle avec tous les érudits du temple. Et eux sont tous scotchés de l'entendre parler, répondre aux questions, poser des questions extrêmement pertinentes. Donc il y a clairement quelqu'un qui n'a jamais parlé. Et après, il y a les actes. C'est pas que des paroles.
Oui.
C'est qu'en plus, en effet, on voit qu'au travers d'un ensemble de miracles, Jésus a une puissance, pour ne pas dire toute puissance, sur des domaines qui sont clairement uniquement l'apanage de Dieu. Or, en accomplissant ces actes, Jésus nous dévoile quelque part aussi une partie de son identité et quelque part suscite et devrait susciter notre question. Mais une personne qui est capable de faire ça et qui dit ça, mais qui est-ce? Et c'est ce que veulent provoquer beaucoup de nos évangiles, en fait, pour qu'on puisse se faire nous-mêmes notre question. Et Jésus le fait d'ailleurs en plein milieu de plusieurs des évangiles, où il dit, mais qui dites-vous que je suis en fait? Et là, on sent que dans Marc, c'est très marrant parce que c'est une question qu'il pose juste au milieu de l'évangile. Jésus a exercé un ministère itinérant, il se balade de ville en ville, on le sollicite, hop, il va à tel endroit guérir une personne, on l'appelle à venir. Il le fait, et puis il fait ça pendant 8 chapitres. Et puis tout d'un coup, au milieu de l'évangile de Marc, Marc nous place la question, ok, qu'est-ce que disent les gens en fait à mon sujet? Et puis les disciples répondent à la question, et puis il devient très personnel, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et je trouve ça extraordinaire. Dans la pédagogie de notre Seigneur, c'est qu'il dit, à quelle conclusion vous arrivez ?
Mais cette question, je crois qu'elle est cruciale pour chaque être humain.
Absolument.
Parce que qui est Christ pour toi ? C'est la première question que je t'ai posée. Ouais. Mais je crois que c'est aussi la question que tout le monde devrait se poser, en fait.
Absolument.
Et on ne peut pas être neutre, en fait. Parce que si on ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est dire qu'on est en train soit de dire que c'est un menteur, un manipulateur, soit de dire que c'est un fou, qu'il a perdu la tête, parce que lui-même s'est proclamé Fils de Dieu, lui-même s'est fait Dieu, il a dit avant Abraham, je suis, et il a dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit qu'il reviendra juger le monde. Donc c'est pas rien ce qu'il a enseigné. Donc on ne peut pas dire que c'est une bonne personne qui a fait des belles choses, non. Soit tu crois que c'est un menteur, un manipulateur et quelqu'un de très mauvais, soit peut-être un fou dingue qui a perdu la tête, soit ce qu'il a dit est vraiment vrai, et dans ce cas-là, ça peut changer ta vie.
Exactement. Et c'était tout l'argument du grand C.S. Lewis, là, cet auteur chrétien qui a écrit les chroniques de Narnia, où justement, lui qui était d'un arrière-plan au début athée, puis peu à peu agnostique, puis finalement qui est devenu chrétien, il s'est dit, mais Christ ne nous laisse pas le choix, en fait. Parce qu'on ne peut pas juste, on lit l'évangile et à la fin, il dit, bon, c'est un grand homme. Parce qu'en fait, il ne rentre pas dans cette catégorie.
Ouais.
Et ses affirmations sont quelque part problématiques. Parce que si Jésus avait juste dit, je suis un chemin, ou je suis quelqu'un de bien, ou je suis un super prophète, on aurait pu avoir une haute estime de lui, et on en reste là, comme on peut l'avoir pour plein d'autres personnages importants de l'histoire. Sauf que ces déclarations sont problématiques, parce qu'il nous pousse à avoir une opinion sur lui, et quelque part à décider. Mais en effet, il ne nous laisse jamais dans la neutralité.
Il y a Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le seul chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père qu'en passant par moi.
Et on est d'autant plus gêné que toutes ces affirmations que Jésus a, qui sont profondément exclusives quelque part, et donc très dérangeantes dans une société comme la nôtre, elles sont prononcées par quelqu'un qui, en parallèle, se révèle être l'une des personnes les plus humbles, les plus aimantes, les plus douces, les plus compatissantes que l'humanité ait connues. Et puis, il ne s'impose pas. Et notamment par rapport à sa puissance, on voit qu'il n'utilise jamais sa puissance pour son bien personnel. Il utilise sa puissance beaucoup plus pour nous interpeller, ces gens qui parlent justement de signes, quelque part, pour nous faire plutôt réfléchir. Mais attends, s'il fait ça, ça veut dire quoi ? Et j'aime cette pédagogie de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que finalement, elle nous responsabilise.
Mais tu vois, cette question de fou, menteur ou fils de Dieu, un menteur, il n'aurait pas eu cette vie pleine d'amour, et surtout, il ne serait pas allé jusqu'à mourir pour un mensonge.
Absolument.
Parce que il faut rappeler que c'est pour ces déclarations-là qu'on l'a crucifié.
Exactement, exactement.
Un fou, non, Jésus, il était plein de sagesse, il répondait toujours avec pertinence, avec discernement. Il n'était pas fou, il était très conscient de ce qu'il disait. Certains pensent que c'est juste un prophète, mais encore une fois, il a dit qu'il est le seul chemin vers le Père. Donc il y a quelque chose d'exclusif, comme tu l'as dit, et c'est de là que vient cette formulation « Solus Christus », en Christ seul. C'est pas seulement Christ est le plus grand ou Christ, c'est le seul. J'ai évoqué sa mort à la croix. On croit aussi qu'il est ressuscité. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette œuvre de Jésus est le seul moyen pour nous d'être réconciliés avec Dieu ?
En effet, cette expression « solus Christus », même si elle apparaît avec les solas vers la Réforme, en fait, c'est une vérité qui est immédiate au Nouveau Testament. Quelque part, Christ l'affirme, mais on voit que très très tôt, dès ce qu'on appelle les actes des apôtres, donc les tout premiers chrétiens, et notamment ceux que Jésus avait choisis, très vite l'affirment dans leur prêche, c'est une évidence pour eux, et donc c'est repris après, et ça, c'est une des vérités qui a traversé nos 2000 ans d'histoire. Et donc du coup, elle contient, je pense, elle met l'accent sur plusieurs vérités. La première, c'est qu'en effet, Christ seul, c'était en premier cette notion qu'il est le seul médiateur. Dans le sens, il n'existe pas d'autre personne qui puisse se revendiquer d'être à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Christ est le seul, par ses paroles et par ses actes, à révéler cette dualité du pleinement homme et du pleinement Dieu. Donc dans ce sens-là, il est le seul à partager cette double nature. Après, il est le seul à être allé sur la croix. Donc dans le sens, pas le seul homme à avoir été crucifié, mais le seul à avoir démontré jusqu'où Dieu avait décidé d'aller pour nous réconcilier à lui.
Oui, parce qu'il y a d'autres hommes qui ont été crucifiés, même là, à sa droite et à sa gauche,
tout à
et
fait.
Puis dans l'histoire de l'humanité.
Voilà.
Mais en quoi, lui, il y a quelque chose de particulier dans sa mort à la croix?
Tout à fait. Ce qui rend son sacrifice d'autant plus particulier, il y a le fait qu'on sait qu'il est crucifié alors qu'il est totalement innocent. La parodie de jugement qui précède est de façon très flagrante, plus un complot qu'autre chose. Mais on voit que Jésus entre dans ce processus et accepte quelque part cette injustice flagrante, mais parce que bien avant, il nous est dit déjà qu'il décide d'aller vers Jérusalem et il annonce même à ses disciples ce qu'il va lui arriver. Donc il est tout à fait conscient du chemin vers lequel il se dirige et ses disciples d'ailleurs, ils veulent l'en dissuader. Il y a ce passage très connu de Pierre qui reprend Jésus, donc avec tout son audace bien connue, et Jésus est obligé de dire « mais retire arrière de moi, Satan, parce que tes pensées, en fait, ne sont pas mes pensées et parce que tu n'as pas, en fait, vraiment compris le pourquoi de ma venue. » Et c'est là où c'est un élément très important pour nous en tant que chrétiens, qui était là aussi annoncé dans les prophéties, notamment l'une des plus connues dans Ésaïe 53, où dans ce chapitre, on découvre qu'en fait, Dieu a choisi d'exercer sa justice et son amour au travers du sacrifice de son Fils. C'est-à-dire que d'une personne qui prendrait sur lui quelque chose qu'elle n'a pas mérité, nos fautes, notre péché, nos rébellions contre Dieu, il les a prises comme un jugement sur lui. Mais étant innocent, il nous transfère, c'est ce qu'on appelle la notion de substitution, il prend notre place et il nous transfère, il nous offre, en échange du fait qu'il a pris notre culpabilité, il nous transfère son innocence, sa justice. Et donc ça, c'est cet échange spirituel, théologique, c'est ce qui change tout. Et c'est ce qui permet, en fait, de façon très importante, finalement, de réaliser que Dieu est à la fois plein d'amour, puisqu'il nous sauve, puisqu'il nous aime, puisqu'il nous pardonne. Mais en même temps, s'il n'était que cela, si demain il arrive quelque chose à une de mes filles, et puis que la personne est arrêtée, et que le juge vient et me dit « Ah, Manu, sois cool quand même, mais c'est la première fois qu'il lui fait une telle erreur. Oui, peut-être t'as perdu un enfant, mais... on le libère. » Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de voir cela comme un profond sentiment d'injustice quelque part. Parce que ça serait comme dire bah « En fait, la vie de ma fille ne vaut rien. » Donc en fait, on ne peut pas. Et on a tous expérimenté des moments où, quand on est face à l'injustice, c'est insupportable. Et donc, Dieu est de même, il est juste. Et donc, la grande question, c'était comment est-ce qu'il va associer ces deux dimensions de son être, puisqu'il est parfaitement juste et parfaitement amour. Et on a la réponse à la croix. Où à la croix, on découvre à la fois que Dieu, oui, est parfaitement amour, et c'est quand même de la croix que Jésus déclare notamment « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Là, en l'occurrence, on l'évoquait tout à l'heure, aucun fou, aucun menteur ne prononcerait une telle parole. D'abord, il ne serait incapable de l'imaginer, mais encore plus incapable de la prononcer, s'il est dans l'usurpation ou dans la mascarade. Or, Jésus prononce une telle parole, mais chose plus belle encore, c'est qu'il dit aussi « tout est accompli ». Donc, il y a bien un projet derrière cet sacrifice. Et ce « tout est accompli », c'est quelque part, la dette est payée. La colère, le juste jugement, l'acte qui va vous rendre juste, je le paye, je viens de le payer. C'est l'image aussi de la rançon, il y en a beaucoup que l'on trouve dans le Nouveau Testament, mais qui est extrêmement importante pour nous de permettre d'affirmer qu'au travers de cela, ce que Christ a accompli, il est le seul à l'avoir fait.
En fait, il y a beaucoup de religions qui parlent du pardon de Dieu, mais j'ai l'impression que la foi chrétienne, c'est la seule où il y a un moyen d'être pardonné. C'est pas juste un pardon gratuit. On parle d'un Dieu saint, juste, qui a horreur du péché. Notre rébellion envers Dieu, elle est extrêmement grave.
Tout à fait.
Autant c'est grave de se rebeller contre une autorité, son père, sa mère, un policier, un président, mais Dieu, lui, qui a créé le monde entier. Offenser Dieu, le créateur du monde, c'est extrêmement grave et le prix qui en découle, il doit être extrêmement cher. Donc là, la foi chrétienne, elle donne un vrai moyen d'être pardonné, un vrai moyen d'être lavé de ses péchés. Et ce n'est pas des sacrifices d'animaux, c'est le sacrifice du Fils de Dieu qui est pur et sans tache.
C'est ça, et ce qui est extrêmement touchant, c'est qu'on voit avec quelle disposition de cœur Jésus va vers ce sacrifice. Une des scènes qui me touche le plus, qu'on a dans les quatre évangiles, c'est ce moment de lutte que Jésus a dans le jardin, où il commence à être profondément saisi d'angoisse, qu'il n'avait jamais connue depuis toute éternité. Et là, il y a cette lutte personnelle qui nous montre aussi, là aussi, que Jésus n'est pas non plus un héros, au sens comme on peut le voir aujourd'hui en termes de Marvel, quelque part. mais on a vraiment quelqu'un qui partage profondément notre humanité, qui ne va pas à la croix, allons-y gaiement, il n'y a aucun masochisme dans son sacrifice, il n'y a aucune glorification de la souffrance pour glorifier la souffrance, du tout. Mais on est vraiment dans l'amour, peut-être voilà, comme on le ferait, comme on le voit parfois pour des situations très proches, comme un parent pour un enfant, comme peut-être un ami pour un autre ami. Sauf que là, en l'occurrence, Jésus-Christ fait ça pour les personnes qui sont à ce moment-là absolument pas reconnaissant, inconscient même de ce qui est en jeu. Mmh. Et donc, quelque part, s'il a fait aussi cela pour moi, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
Bah, que ma vie a de la valeur. Que ma vie a énormément de valeur, puisqu'il est, il est mort pour moi. Mmh. Mais aussi, en même temps, ça m'invite à réaliser qu'il y a bien quelque chose qui m'éloigne de Dieu, qui me sépare de Dieu. Je dois le réaliser, je dois le reconnaître quelque part. Mon orgueil, mon ego, mon tempérament, tout ce qui m'amène à vouloir toujours choisir ce qui m'avantage moi et ou qui m'autorise à juger les autres et à toujours être très indulgent envers moi. Et j'ai besoin d'être délivré de cette attitude, j'ai besoin d'en être pardonné. Et du coup, là, je découvre aussi qu'à la croix, justement, Christ fait cela. Donc, en effet, il est vraiment le seul aussi dans ce sens où il est le juge et l'avocat. Et il est la victime.
Tu sais qu'on a une chanson avec Dévotion qui s'appelle « Juge et avocat ».
Ah, extraordinaire, je réécoute les paroles, mais voilà.
Mais c'est très bien dit.
Et on met le doigt sur une vérité qui nous touche, quoi, parce que, ouais, il y a un don de Dieu envers nous qui ne peut pas nous laisser indifférents, en effet.
Et Manu, dis-moi, quels ont été les questionnements parce que tu nous as raconté le début de ton témoignage. Ouais. J'imagine, après, il y a eu toute une réflexion, une marche pour en découvrir plus sur Jésus. Tout à l'heure, je parlais de est-ce que Jésus était fou, est-ce que c'était un menteur. Je sais que moi, personnellement, je me suis posé ce genre de questions. J'ai eu aussi du mal avec cette notion qu'on a évoquée, le fait qu'il soit à la fois entièrement homme, entièrement Dieu. Et ceux qui attaquent la foi chrétienne, souvent, ils ont plein de questions là-dessus. Et ils vont dire, mais si Jésus, c'est Dieu, pourquoi il ne connaît pas l'heure et la date de son retour ou ouais. Ce genre de questions très difficiles. Quels ont été tes questionnements à toi et où est-ce que tu as trouvé les réponses?
Alors, je me rappelle, plusieurs questions moi, se sont posées vers fin des années lycée, début d'université, je pense. C'était par rapport à arriver quand on a 18 ans, qu'on veut faire quelque chose de sa vie, qu'on veut réussir, qu'on veut être épanoui. Je me posais vraiment la question, en quoi est-ce que Jésus-Christ s'intéresse vraiment à ma vie toujours? En quoi est-ce qu'il est pertinent pour moi aujourd'hui, au XXIe siècle, etc. Mmh. Donc là, il y a eu ce moment de lutte quelque part. Et là, je me suis à nouveau replongé dans les Écritures. Ouais. Et notamment, je voulais être sûr que quelque part, ce n'est pas une histoire habilement écrite, conçue, mais au final, un conte trop beau pour être vrai. Mmh. Et là, une fois de plus, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'en fait, la démarche était sincère devant le Seigneur. Ce n'est pas que je voulais trouver des failles pour bien m'arranger et aller vers mes amis, c'est que je voulais vraiment, quelque part, être convaincu. Et c'est ce que Dieu a fait, en fait, en me permettant justement de voir comment, quand on scrute les Écritures, quand on regarde, il y a une vraie cohérence interne. C'est certes la personne de Jésus-Christ, telle qu'on la découvre dans les Évangiles, mais c'est aussi tout ce plan de Dieu, dans lequel Jésus-Christ est la pierre centrale, mais c'est tout ce plan aussi de Dieu, et on voit que Dieu a réellement un projet pour notre humanité. Dieu a tout créé, le mal est entré, et on parlait tout à l'heure du jardin, mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est quand on découvre que tout d'un coup, en fait, le jardin, le moment où Jésus va réussir à obéir à son Père dans le jardin, c'est la juste réponse à ce moment où dans un jardin aussi, l'humanité s'est rebellée contre Dieu. Et Jésus vient parfaitement. Et toutes ces différentes, quelque part, échos entre les événements de l'Ancien et la façon dont Christ répond à cela, quand on sait que la Bible voilà, écrit, étalée sur des siècles, au travers de différents auteurs inspirés, là, tout d'un coup, on est face à une cohérence.
C'est un miracle,
oui, inexplicable. Oui. Et du coup, il accomplit pleinement et parfaitement son projet, mais avec nous. Ça, c'est quelque chose qui est constant avec notre Dieu, c'est qu'en fait, il ne fait pas les choses sans nous. Il pourrait, ça serait mille fois mieux fait. Mais il choisit de le faire avec nous. Il a choisi de le faire au travers des hommes. Quand Jésus accomplit son ministère, aussitôt, il choisit des disciples. Mais qu'est-ce qu'il est allé s'embêter avec nous,
Et puis la Bible, tu le dis, c'est un miracle, mais c'est des hommes qui l'ont écrit.
Oui, inspiré de Dieu, mais c'est bel et bien. Et Dieu les utilise. Et c'est pas, en fait, notre humanité, quelque part, pas un problème, puisqu'il nous a créés. Le péché en est un,
oui.
Mais pas notre humanité.
On est créé à l'image de Dieu.
On est créé à l'image de Dieu.
Ouais.
Et c'est là où des fois on se trompe. C'est qu'en fait, on veut minimiser le péché et sous-estimer le problème qu'il est. Et on pense parfois que Dieu ne peut pas nous aimer. Ou... Et c'est tout l'inverse, en fait.
Quand la Bible dit la chair, ça fait référence à ces choses-là mauvaises. Parce que
oui, c'est des choses qu'avec notre corps, oui. Le péché nous fait faire.
Mais ce n'est pas l'humanité en elle-même. Quoi.
Tout à fait.
Ouais, ouais.
Non, tout à fait.
On a parlé de Christ seul. Justement, tu l'as dit, c'est exclusif. Est-ce que dans cette notion-là, il n'y a pas une forme d'intolérance vis-à-vis des autres fois, des autres croyances, des autres religions? Il n'y a pas une forme même de rejet des autres? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses, comme certains, qu'on a tous le même Dieu?
En effet, ça c'était une deuxième de mes grands débats pendant la période universitaire, forcément, parce qu'on a des amis athées, musulmans, pratiquant peut-être un peu d'autres spiritualités, d'autres religions. Quand on arrive avec notre conviction que de Christ seul, forcément, dans notre société d'aujourd'hui, ça paraît profondément arrogant, intolérant, et en général, ça n'ouvre pas beaucoup de portes. Donc je pense que là, il y a plusieurs choses, et il faut un peu démêler un peu les choses pour justement bien expliquer qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Christ seul. On revient tout à l'heure, on a évoqué le caractère de Jésus. Quand Christ affirme ses paroles, qui sont profondément exclusives, on voit bien qu'à aucun moment il les prononce qu'avec une forme d'ego d'un homme qui s'emballerait un peu dans sa vantardise. On a tous sauf cette tonalité-là dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il nous faut être un peu factuel quelque part et prendre le recul. Et le recul, en fait, il est simple. C'est que quelque part, si on met sur la table les grands hommes en qui on pourrait tenter de placer un certain espoir, confiance. Que ce soit des grands leaders spirituels, que ce soit des grands leaders politiques, militaires, ou des célébrités d'aujourd'hui, je pense qu'on peut le faire. Mettons-les sur la table et examinons leur vie de manière vraiment factuelle, et examinons leur dire, leurs paroles. Et là, et j'ai fait cet exercice-là sur le plan spirituel, quand j'étais à l'université vraiment, parce qu'en effet, je n'avais pas forcément envie d'avoir l'étiquette intolérant. C'est quelque chose souvent avec lequel on n'est pas trop à l'aise. Mais là où c'était assez flagrant, c'est qu'en fait, justement, Jésus-Christ, certes, dit des choses profondément exclusives, mais on voit bien qu'en fait, il les confirme par ses actes. Il les confirme par les types de miracles qu'il est capable d'accomplir. Il les confirme parce qu'en effet, toute sa vie, de la nativité jusqu'à la manière dont il ressuscite, en passant par la croix, est unique. Tout simplement unique. C'est pas parce que j'ai des intérêts, etc. Je dis que je viens de famille athée, je suis pas né là où Jésus est né, donc, mais c'est un fait quelque part.
Ouais, c'est objectif.
Je découvre en lui. Or, quand on regarde beaucoup d'autres grands leaders, on voit bien que bien souvent, ils n'ont pas prononcé des paroles aussi engageantes. À une époque, j'étais un peu curieux du bouddhisme. Ce qui est très marrant, c'est qu'on voit que Bouddha passait toute sa vie à chercher. Lui-même, il disait « je cherche ». La grande valeur, c'est « il cherche ». Et c'est louable, quelque part, de chercher le bien, de chercher ce qui lui paraît être le plus vrai, le plus pur, etc. Mais il a passé toute sa vie à chercher. Ce qui est extraordinaire et étonnant avec Jésus-Christ, c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui cherche. On a quelqu'un qui ose dire « je suis
».
Et je pense que là aussi, quelque part, c'est provocateur dans notre société, parce qu'aujourd'hui, si je dis « je suis en recherche spirituelle », tout le monde vous encourage.
Oui.
Si je dis « j'ai trouvé », non mais t'es vraiment, tu te prends pour qui?
Ouais.
Et en fait, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est que, justement, de dire « j'ai trouvé, donc je suis meilleur que toi ». Non, non, non. Mais je peux pas dire autre chose que en Jésus-Christ, dans sa vie, dans ses paroles, j'ai trouvé les réponses à mes questions.
Et en réalité, croire en Jésus, c'est d'abord réaliser qu'on n'est rien, qu'on a besoin d'un sauveur,
qu'on
a besoin d'un maître, c'est ça. En fait, suivre Jésus, il n'y a aucune fierté personnelle.
Tout à fait.
C'est vraiment, au contraire, c'est renoncer à soi-même. Et puis, ce qui nous amène à croire en lui, c'est d'abord prendre conscience qu'on a besoin d'être sauvé. Donc, il n'y a pas le truc de « moi, je suis meilleur que les autres, j'ai trouvé, je suis plus intelligent ». C'est l'inverse. C'est moi, je suis le pire des derniers des hommes, premier des pécheurs, et j'ai juste besoin de la grâce de Dieu, et il me l'offre en Jésus.
Exactement. Je me rappelle de cette scène très touchante dans le livre sur un homme qui s'appelait le Sadhu Sundar Singh. Donc un homme très zélé dans l'hindouisme, qui était un peu comme ce qu'on appellerait un brahman, donc vraiment un saint dans sa religion, très fervent et issu d'une haute caste en plus, et qui devient chrétien. Et là, sa famille tente de l'éliminer, de l'empoisonner, de se débarrasser de lui. Il devient un saint chrétien, un ermite un peu. Un jour, il revoit son oncle. Et il y a cette scène où vraiment son oncle lui dit « Mais qu'est-ce que tu as trouvé en Jésus que tu n'avais pas dans notre foi ?» Et il dit « J'ai trouvé Christ. » « Oui, oui, je sais, mais qu'est-ce que tu as trouvé vraiment dans les principes, dans les écrits ou autres que tu n'avais pas ?» « J'ai trouvé Christ. » Et en fait, à un moment donné, l'oncle dit « Mais en fait, tu ne comprends pas. C'est pas que j'ai trouvé une nouvelle loi ou un... J'ai trouvé une personne. J'ai trouvé Christ. » Et on est dans le fameux Christ seul quelque part. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on a trouvé une personne. Et c'est là où, en effet, je pense que, par contre, en tant que chrétien, si réellement on a compris cela, nous devons, en effet, être les derniers des orgueilleux au sens arrogant. Nous devons être fiers d'avoir un tel Seigneur, mais nous devons être les derniers des arrogants, parce que qui pourrait se vanter d'avoir été guéri miraculeusement et après de se dire « Ah ben j'ai le... » Non, ça doit nous rendre... Je crois que c'est le pasteur anglais Charles Spurgeon qui disait que voilà, un chrétien, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain gratuit. Donc je pense que c'est ça.
Wow.
J'ai trouvé Jésus-Christ. Et cette découverte, cette rencontre, elle est propre à chacun. Je peux que aider d'autres, les encourager à faire leurs recherches, mais je peux certainement pas leur imposer.
C'est fort cette notion de rencontre.
Ouais.
C'est pas juste découvrir une foi, découvrir des principes, parce que là on a expliqué en quoi la Bible enseigne que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Ouais.
Mais au-delà de ça, au-delà de ces principes de foi, c'est une personne qu'on rencontre. C'est pas juste croire en des doctrines.
Tout à fait.
C'est avoir une relation avec quelqu'un.
Absolument.
Qu'est-ce que tu peux dire pour encourager ceux qui nous écoutent justement à aller dans ce sens-là? Parce que bah, parfois, moi j'ai grandi dans la foi chrétienne, donc j'entends depuis tout petit plein de principes. Jésus est mort, ressuscité, ok, je sais, j'ai capté. Il revient bientôt, ok, super. Mais moi personnellement, tu vois, on a parlé du fait que oui, Jésus est mort pour nos péchés, mais est-ce qu'il est mort pour mes péchés personnellement? Est-ce que vraiment je connais le Christ? Est-ce que je le connais personnellement? Et au-delà de ça, désolé, ma question elle est à rallonge. Au-delà de est-ce que je le connais, est-ce que lui me connaît? Parce que c'est Jésus lui-même qui dit « Beaucoup me disent Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas dans mon royaume. » Il dit « Mais je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui connaissez le mal. » Donc, il ne dit pas « Vous ne me connaissez pas », il dit « Moi, je ne vous connais pas.
»
Comment être connu de Dieu? C'est ça ma question. Parce qu'on peut connaître des stars, je connais Maître Gims et je connais Aya Nakamura, mais eux, ils ne me connaissent pas.
Absolument. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important pour nous, chrétiens, ou en chemin, à vraiment découvrir, qui est pourtant omniprésente dans les évangiles. Et curieusement, j'ai mis du temps à le voir de manière aussi évidente, et pourtant c'était là sous mes yeux. C'est toute cette facette de Jésus qui nous invite, et qui invite ses premiers disciples, « Suis-moi ». C'est comme un des ordres qui revient constamment dans la bouche de notre Seigneur vis-à-vis des personnes qui l'entourent. Suivez-moi, suis-moi, suis-moi. L'évangile de Jean commence par cette parole, et tout à la fin de l'évangile de Jean, lorsque Jésus est dans un échange avec l'apôtre Pierre, il lui redonne le même ordre, suis-moi. Donc je pense que là, il y a un élément très important qui est propre à découvrir et du coup à tisser une rencontre, c'est que Jésus nous invite à le suivre. Et donc, on peut s'imaginer aujourd'hui, voilà, si en effet je me mettais tout d'un coup à suivre Ousmane Dembélé. Alors, je peux devenir un fan d'Ousmane Dembélé, j'ai le t-shirt, j'ai le nom dans le dos, j'ai quelques posters dans la chambre, ou je ne sais quoi, j'ai une photo... Bon, ok, ça fait de moi un fan. Mais je ne suis pas un disciple plus que ça d'Ousmane Dembélé, et comme tu disais, lui ne me connaît pas du tout. Maintenant, imaginons que Ousmane Dembélé m'invite à aller à un entraînement. J'y vais, et puis j'arrive, je viens avec le téléphone, je prends 4-5 selfies, je tape la pause avec Ousmane, je suis tout content, je la partage sur tous les réseaux sociaux, et puis je dis ciao. Et là, Ousmane dit, attends, je t'ai vraiment invité à un entraînement. Manu, reste. Et puis, on va partager, on va échanger, je vais te transmettre quelques combines, ça, et il m'invite. Et puis, on le fait une fois, donc le régal, alors là, l'expérience... de près, de proximité, et il me dit reviens demain, et puis reviens. Et là, tout d'un coup, ça change toute ma relation avec Ousmane Dembélé. Parce que là, tout d'un coup, je suis en train, en fait, de recevoir, de bâtir une relation qui lie à la fois de l'amitié, mais à la fois, j'ai tout à apprendre et il a tout à m'enseigner. Et donc, on entre dans une toute autre dynamique. Mais je ne deviendrai jamais Ousmane Dembélé parce que je m'y prends trop tard. Et puis parce que le pauvre, il n'a pas choisi le candidat le plus prometteur. Mais ce qui est sûr, je pense, c'est que si réellement je joue le jeu, après un an, j'aurai forcément progressé.
Ta vie, elle va changer.
Et cette notion, cette manière, cette approche pédagogique, c'est celle que Jésus-Christ a proposée à tous ceux qui étaient autour de lui. Il en a choisi en priorité, mais c'était un appel quand même qu'il offrait à beaucoup de personnes. On a même des exemples où il y a des gens à un moment donné, quand ils voient que le level devient un peu élevé, finalement se retirent. Mais Jésus a invité les personnes à le suivre, observer, apprenez de moi. Il y a cette phrase que j'aime énormément et que je pense qu'on doit vraiment redécouvrir pour nous chrétiens. Quand Jésus dit dans Matthieu 11, 28 et 29, « Mettez-vous à mon école. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, mettez-vous à mon école. » Et je pense qu'il y a cette facette. Jésus est le seul sauveur. Il est le seul digne d'être notre Seigneur. Mais il est aussi le seul maître. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lui qui nous appelle. Si Ousmane, tout d'un coup, devait choisir, si le pari lui dit, écoute, choisis une douzaine de joueurs qui te paraissent prometteurs. J'entre pas dans les 12, j'entre pas dans les 1000, j'entre pas dans les 100 000. Quand Jésus doit choisir des disciples, les 12 qu'il a pris sont pas dans la top 10, même pas dans le top 100 ni dans le top 1000. Ils sont rien. Donc, et Jésus le dira dans Jean 15, je suis moi qui vous ai choisi. Donc quand Jésus en fait fait ce choix et qu'il nous appelle, c'est parce que lui il sait qu'il a la capacité. Si tu te mets vraiment à mon école, crois-moi, je vais pouvoir te transformer. Je vais pouvoir et on va bâtir une relation. Et ça c'est extraordinaire. Et Jésus fait cela et nous invite à vivre cette expérience vraiment chacun d'entre nous. Et donc on devient en effet des élèves en chemin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même si on est très lent à progresser, ce qui était le cas des apôtres, parce qu'on voit qu'au bout de 3 ans, la transformation elle n'est pas encore finie. Jésus n'exclut personne et ne renvoie personne. Bon, et Pierre, je suis un peu désolé, j'avais pas vu que tu étais aussi impulsif, ça va pas le faire, donc je vais choisir quelqu'un d'autre. T'as pas un petit frère qui serait plus doux, non? Et donc, je pense que là, il y a un élément vraiment très fort aussi de la foi chrétienne, c'est qu'en effet, quand on parle de relation, quand on parle de vraiment connaître Jésus, c'est cette idée de proximité. Et de relations qui s'approfondissent et qui m'amènent à cette histoire de connaître Dieu que tu posais, c'est que finalement, en effet, je connais de plus en plus parce que, comme je disais, je peux connaître Ousmane Dembélé depuis mon écran de télé en voyant les matchs, mais le connaître de contact, partager des repas, partager des moments avec lui, des séances d'entraînement et autres, ça change toute la dimension de la relation. Et je pourrais du coup presque aller voir les amis et dire « Non, mais j'ai une relation avec Ousmane, on se connaît et il me connaît. Et ça ne veut pas dire que je suis Ousmane, mais j'ai une vraie relation. » Et donc, je pense que là, il y a une dimension vraiment pour nous en tant que chrétiens qui doit nous... Et une question, dire « Est-ce que je connais Jésus comme un disciple connaît son maître ?» Parce qu'une heure et demie le dimanche ne fait de personne un disciple. Et là, je pense qu'il y a une méthodologie qui n'est pas celle que Jésus nous montre dans les évangiles, parce que tout ça, ils l'ont vécu avant même d'assister à la croix. Ils avaient une relation. Et imparfaite, parce qu'ils étaient imparfaits, mais ils avaient une vraie relation. Et c'est à ça que j'aspire quand je parle de suivre Jésus, vraiment.
Ça me touche. Hein. Merci beaucoup pour cette image de Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Ouais, en fait, c'est pas juste être supporter, c'est cette proximité, cette relation de formation, de discipula. C'est j'apprends tous les jours.
C'est ça.
Et ça enlève une certaine pression qu'on pourrait se mettre.
Tout
parfois.
À fait.
Là, tu parles de relation quotidienne. C'est pas forcément dans le surnaturel. On est dans un truc simplement de vie de disciple.
Le but d'un disciple, et Luc 6, 40 nous le dit, tout disciple bien formé sera comme son maître. Quand je parle de suivre Jésus-Christ, de devenir chrétien, personnellement, mon rêve, et je sais qu'au ciel, il sera parfaitement accompli, mais je rêve d'avoir les mêmes dispositions de cœur que celles de mon Seigneur lorsqu'il était sur cette terre. C'est mon désir, c'est ma prière bien, bien, bien souvent, qui est loin d'être encore accompli, mais qui est d'avoir, dans toutes les personnes que je peux rencontrer, les circonstances, comment est-ce que le Seigneur Jésus agirait? Comment est-ce qu'il manifesterait de la compassion, de la bonté, de l'intérêt pour toutes ces personnes. Comment face à quelqu'un qui peut-être un peu est irritant ou autre, comment est-ce que lui il agit? Et tout ça, on a des aperçus dans les évangiles. Donc en les lisant, on s'imprègne aussi de son exemple. Et en même temps, en le laissant vivre en moi, il m'aide peu à peu. Mais non, le projet, la maturité pour un chrétien, c'est de ressembler à son Seigneur. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que le mot chrétien est apparu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont commencé à ressembler à leur maître, quelque part. Et c'est le projet. Et un jour, il sera pleinement réalisé, dans le sens où un jour, tu seras pleinement Jonathan, je serai pleinement Manu. Sauf que le caractère qui était dans notre Seigneur lorsqu'il a marché sur cette terre, il sera aussi en nous. On sera pleinement nous-mêmes. Wow. On ne sera pas Jésus. Il n'y en a qu'un. Mais nous serons pleinement Manu et Jonathan, remplis des dispositions de cœur que celles de notre Seigneur. Quand on regardera notre prochain, il y aura zéro moquerie, zéro jalousie, zéro. Il y aura la bonté. Et ça, c'est le projet. Et c'est ça que Dieu veut et peut réaliser en nous. Et c'est pour ça qu'il est allé à la croix.
Et d'ailleurs, on n'attend pas juste ce moment-là, on attend une personne qui revient, on attend le retour de Jésus.
Exactement.
On n'attend pas juste l'accomplissement de certains événements, mais c'est vrai que, waouh, j'ai hâte.
Oui, bien sûr, et il le dit, on est transformé de gloire en gloire, et un jour, nous le verrons face à face.
Wow.
Et certainement, oui, ce sera un jour incomparable.
Je voulais te faire écouter un morceau.
Avec plaisir.
Ni Bouddha ni Krishna, y'a que le Créateur qui peut sauver les âmes. Entre Dieu et les hommes, y'a un seul médiateur, c'est pas le prophète de l'islam.
Alors, qu'est-ce qu'on a pensé?
Ah, une très belle composition là.
Merci.
Des textes engagés et forts. Mmh. En effet, bah, qui rejoignent notre thème. Hein. Donc, parmi tout ce qui existe, de considérer qu'un seul est digne d'être suivi vraiment.
Je les entends parler de Jésus-Christ, mais c'est pas celui des écrits. Comment il est décrit, ça a rien à voir, rien à voir.
Je crois que ça, c'est vraiment un élément pour nous, des fois en tant que chrétiens, qui nous fait de la peine, c'est de voir que, ben, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas d'idée sur Jésus, qui le découvre, c'est presque plus facile que les personnes qui ont eu des caricatures de Jésus, qui ont eu des Christs un peu déformés par toutes sortes d'éléments culturels ou de clichés ou autres. Mmh. Et du coup, c'est des fois souvent pour nous une souffrance de dire « Mais non, c'est pas de Jésus-là que je te parle. » Et c'est vrai que, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais voulu faire justement un message. Et puis j'étais un peu curieux, j'avais tapé sur Amazon le livre, et puis j'avais tapé sur Jésus. Et j'avais découvert qu'il en sort des dizaines et des dizaines tous les ans. Et t'as, voilà, le Jésus ceci, le Jésus cela, et à toutes les sauces, quoi, tout le monde a son nez. Et donc, du coup, et alors, je me rappelle une fois, c'est que j'étais tombé chez un voisin, et je vois un de ses livres. Et puis, du coup, on démarre la discussion, et puis le Jésus des évangiles, ça n'intéressait pas. C'était vraiment une situation d'une grande frustration, quelque part. Et bon, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une ruse aussi de l'ennemi, une des tactiques du diable qu'il a, quelque part, c'est que s'il ne peut pas nous empêcher d'évoquer Christ, au moins que ça soit un Christ un peu déformé ou un Christ auquel on ajoute d'autres choses. Tu vois, ouais, Christ, oui, non, c'est bien, mais Christ plus telle idéologie ou Christ plus. Et hélas, du coup, bah, en fait, c'est souvent le décor autour qui prend le dessus sur le message central.
Oui, on n'est plus dans le Christ seul.
Ouais, le Christ d'écriture, le Christ seul. Ouais.
C'est ça, le Christ des Écritures. Parce que c'est qui le vrai Christ? On entend, parce que là, on a beaucoup parlé de Christ seul, mais est-ce que n'importe qui parle de Christ, de Jésus, il parle du Christ, du vrai?
Ouais.
Et bah, on pourrait parler, je ne sais pas, des témoins de Jéhovah, il y a plein de courants religieux, où, bah, même dans l'islam, ils parlent de Jésus. Comment faire la différence? Est-ce que tous ceux qui se réclament de Christ suivent vraiment Christ?
Et c'est là où on fait le lien avec deux choses qu'on a déjà évoquées. C'est pour ça, quelque part, c'est impossible à mon sens, et c'est ce que les évangiles ne font pas, de séparer la dimension des affirmations de Jésus de mon engagement à le suivre.
Mmh.
Et cela peut être une grille, quelque part, de lecture quand on rencontre des personnes. C'est que si même une personne qui aurait plein de belles déclarations ou affirmations sur Jésus, si on voit que finalement elle n'est pas engagée dans une dynamique de le suivre, au sens d'appliquer son enseignement à sa vie au quotidien, ben en fait, elle est déjà dans autre chose. On peut avoir des personnes qui ont des hautes estimes de Jésus, son enseignement admirable, son amour du prochain, c'est super. Mais s'il n'y a pas de réelle relation, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure de disciples, justement, ben en fait, ça reste des belles citations. Et puis, parfois, ça peut être pire quand carrément les personnes prétendent Christ, et puis sont capables des pires atrocités en parole ou en acte.
Au nom de
Jésus. Mais c'est parce qu'à chaque fois, on a séparé l'idée d'une personne de son appel à le suivre. Mmh. Or, c'est sur ça qu'on va être tous quelque part un peu finalement évalués. Est-ce que vous m'avez suivi, en fait? Est-ce que vous êtes mis à mon école?
Voilà. Même dans les églises, c'est peut-être une question un peu taboue, mais est-ce que tu penses qu'il y a des églises qui ne prêchent pas le Christ biblique? Tu vois, est-ce que tu vois parfois des dérives où les gens utilisent le nom de Jésus, mais tu te dis, attends, ça, c'est, on parle pas du même, là.
C'est évident. Alors, je dis cela, loin de moi de vouloir prétendre être... aucun d'entre nous n'est le là. J'ai certainement faux dans des domaines que je me rends peut-être pas compte. En tout cas, j'en suis pas conscient. Et si j'en étais conscient, je changerais. Mais en tout cas... c'est vrai que c'est difficile de ne pas être triste parfois de voir que même des églises qui font partie de la grande famille des églises évangéliques, j'ai le sentiment qu'il y a un éloignement, peut-être plus inconscient que conscient, je l'espère en tout cas, mais qu'il y a un éloignement du Christ des Écritures, que ce soit quand on a un Christ qui est uniquement là pour mon bien-être personnel, et que ça devient l'unique. Il est évident que Jésus a fait du bien à des personnes. Donc, il y a zéro. Il m'a fait du bien. Il a fait du bien à ma mère, je l'ai raconté. Et c'est souvent la porte d'entrée, quelque part, pour beaucoup d'entre nous qui nous approchons. Mais c'est quand il ne sert plus qu'à cela, en fait.
Oui.
Et donc, tant qu'il me bénit, tout va bien. Et le jour où il m'arrive une tuile, ben, je le renie ou je le rejette ou je m'éloigne de lui. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est profondément enfantin et il y a aussi quelque chose qui est profondément non biblique, puisque si on regarde bien les évangiles et la suite, on voit bien que tous ces premiers chrétiens dont nous nous réclamons ont eu aussi à lutter avec une incompréhension, avec des moments de leur vie où ils n'ont pas compris pourquoi Dieu n'agit pas, n'intervient pas. C'est le fameux Pierre qui ne pense pas que Jésus doit passer par la croix pour devenir le Messie que lui s'était imaginé. Et Pierre doit déconstruire l'idée qui s'est faite pour entrer dans le vrai projet. Et plus tard, il va nous montrer ce qu'est un vrai chrétien et un disciple qui va jusqu'au bout. Mais je pense que là, en effet, il y a quand même quelque part un éloignement des Écritures auquel on doit constamment... Pour moi, c'est comme un peu le « là » pour la musique, quelque part. On peut continuer à faire de la musique, mais on ne se rend pas compte que parfois, sous l'effet de la chaleur, la guitare s'est désaccordée. Bon, non, c'est toujours un même mi, etc. Sauf qu'en fait, mon mi n'est plus très juste. Et du coup, jouer à plusieurs devient impossible. Parce que chacun va avoir son là. Et je pense que là, on doit régulièrement, constamment, revenir à cela. Et un verset qui est toujours vraiment le leitmotiv de ma vie personnelle, en dehors même du fait d'être pasteur. Lorsque je faisais mes études de théologie, on m'avait demandé de faire un travail sur les lettres de Paul à Timothée. Timothée était un peu le fils spirituel de Paul. Donc du coup, il lui écrit des lettres, c'était la manière d'enseigner. Et un jour, en études anciennes, je suis tombé sur 2 Timothée 2:8, les phrases. Et en fait, c'est une parole où tout d'un coup, Paul, au milieu de sa lettre, dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et le mot grec, c'est le mot mnémo, qui a donné mnémotechnique, la mémoire. Mais j'ai été scotché que tout d'un coup, comment Paul, 30 ans après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, estime nécessaire de dire à un pasteur, son fils spirituel à Éphèse, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et j'ai été scotché ce jour-là, je me rappelle la scène, je suis dans la bibliothèque, je fais mon travail, et je me dis, mais est-ce que Paul estime que c'est possible que Timothée accomplisse son ministère de pasteur, parle à des chrétiens, fasse le culte, fasse plein de choses très religieuses en oubliant Jésus-Christ.
Et peut-être en parlant de Jésus-Christ, mais en l'oubliant en profondeur.
Et je me suis dit, si Paul a estimé nécessaire de rappeler ça à son fils, c'est qu'en fait, c'est pour nous constamment, quoi. Souviens-toi, c'est le sens du repas du Seigneur qui nous aide à nous souvenir de ce qu'il a fait.
Oui.
Mais régulièrement, on a ce besoin parce qu'on est profondément avec une mémoire courte et tellement de choses peuvent nous attirer. Et le problème, c'est qu'elles sont encore plus subtiles à discerner quand elles semblent être religieuses ou chrétiennes. Mais il nous faut revenir constamment. Et ça, sur ce côté-là, je trouve que parfois, les chrétiens, dans des pays où les circonstances de la foi sont plus éprouvantes, sont des sacrés exemples. Parce que quelque part, leur environnement instable, insécurisant, les amène à vraiment s'attacher aux crises des Écritures. Parce que là, tu ne peux pas t'accrocher à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas t'accrocher à une théologie de la prospérité ou t'accrocher à un truc du « tout ira toujours bien », quoi. Et tu es là et tout d'un coup tu te dis ah ben on vit ça, ah oui mais ah ben non mais les premiers chrétiens aussi, donc c'est normal.
Oui.
Comment est-ce qu'ils ont tenu? Ah ok, Paul et Silas ils chantent, ah ok ils persévèrent, ah ils s'attachent, ils acceptent de souffrir, et là tout d'un coup il y a une dynamique qui se met en place.
Mais tu vois, le verset que tu cites il est intéressant parce que souviens-toi de Jésus, il précise le Messie ressuscité,
voilà,
issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. C'est pas n'importe quel Jésus.
Non, il est encadré, il est défini,
oui,
dans sa nativité, dans l'histoire, dans son enseignement, et exactement.
Oui. Et c'est vrai qu'il y a ce risque-là de s'inventer un Jésus qui correspond à nos attentes.
Tout à fait.
De la même manière que parmi les premiers disciples, il y en a qui attendaient un roi politique, libérateur,
chef militaire, un nouveau David qui nous chasserait, l'envahisseur.
Et c'était pas ça. Et là, tu parles de cet évangile du bien-être qui nous fait croire parfois que Jésus vient nous apporter le bonheur dans cette vie ici-bas, d'une certaine, comme si le bonheur d'ailleurs serait la réussite, le succès, la santé, la prospérité ou tous les défis qu'on peut rencontrer. Et évidemment qu'on vient à Dieu pour lui donner nos sujets de prière, nos inquiétudes et nos préoccupations, et il peut répondre, et il va répondre en son temps, à sa manière. Et merci Seigneur pour ça. Mais avant tout, il vient nous donner d'abord le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Et notre vraie espérance, elle est pour l'éternité, elle n'est pas dans cette vie ici-bas. Et c'est vrai que moi j'entends régulièrement des chrétiens, même autour de moi, qui peuvent me dire « c'est pas normal pour un chrétien d'être malade, Dieu nous a pas... Dieu... » appelé à ça ou je sais pas quoi, comme si ils avaient cette vision-là un peu déformée de Christ. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que des fois, il y a du vrai, du faux, c'est mélangé, c'est compliqué de faire le...
Tout à fait, et c'est là où, en effet, c'est rendu plus complexe, parce qu'il est évident, et on croit, et si on revient en crise d'écriture, on a clairement un Seigneur Jésus-Christ qui a accompli de nombreux miracles, qui a fait un bien considérable, notamment en guérissant des maladies, en délivrant de démons, tout un ensemble de personnes, et il ne s'agit absolument pas de minimiser cela du tout, c'est la réalité, c'est une des facettes. En même temps, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, dans beaucoup de ces actes-là, cela a servi à dévoiler son identité, puisque la réaction des personnes, c'était « mais qui peut faire ça ?» Donc, la chose qui était finalement le fruit de ces interventions, c'était aussi de manifester son amour, sa compassion envers son peuple, mais de les amener à réfléchir « mais qui est ?» Et là où c'est flagrant, c'est qu'en fait, très peu sont allés jusqu'au bout de la logique. Jésus, donc, n'a pas renié le fait d'avoir fait ça, et on voit qu'au fur et à mesure de l'histoire, dans les évangiles, il y a un moment donné où c'est comme si... C'est le cas dans les quatre évangiles, le nombre de miracles diminue. Dans chaque évangile, dans la première moitié, on a un grand nombre de miracles qui sont censés justement un peu attirer l'attention, mais manifester son identité de Messie qui vient prendre soin de son peuple, et donc qui pense ses plaies, qui le délivre, qui fait reculer les œuvres de l'ennemi, etc. Qui était censé provoquer la foi. Or, curieusement, Jésus ne récupère pas ça. L'hostilité ne fait que grandir, l'opposition ne fait que grandir, et finalement, les complots, les menaces, etc. et tout. Donc, c'est qu'il y a une pertinence à faire du bien. Et l'Église l'a compris quand même dans l'histoire, où un grand nombre d'œuvres qui ont consisté à prendre soin des gens sont d'origine chrétienne, parce qu'on voit Christ faire ça. Donc, une fois de plus, il ne s'agit absolument pas de les minimiser, mais cela doit nous interroger quelque part, quand cela ne produit pas l'adoration, la maturité. Et je pense qu'il y a une grande différence en fait entre la reconnaissance et l'adoration. Quelqu'un qui me fait du bien, si mon médecin, demain je lui emmène mon enfant qui est malade, il fait un bon diagnostic et il prescrit les bons médicaments, je vais lui dire merci, j'ai de la reconnaissance. Et c'est une bonne chose, c'est un bon départ. Mais à aucun moment je me mets à genoux devant mon médecin. Donc la question, c'est est-ce que Christ est digne de notre reconnaissance parce qu'il nous fait du bien ? Et c'est une première étape, et peut-être on commence tous par là. Mm-hmm. J'ai été reconnaissant quand j'ai vu que ma mère était guérie. Mm-hmm. Mais c'est autre chose d'un Christ qui est digne de mon adoration, mm-hmm. c'est-à-dire, je te donne tout. Et pas parce que tu me donnes quelque chose, mais parce qu'en fait, je réalise que tu es digne de cela. Mm-hmm. Et je pense que, hélas, et c'est peut-être une question de maturité, mais il y a un petit danger de s'arrêter un peu à distance d'un Christ qui nous donne ce qu'on a besoin, et donc qui, quand même, on va exprimer reconnaissance, on ne veut pas être ingrat. Mais est-ce que nous allons jusqu'au bout et on dit, mais je te donne tout, tu es digne de tout. Ça m'a touché, une de mes conversions les plus touchantes que j'ai vécues, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune musulman qui s'était converti, qui était d'une ethnie qui est quasiment intégralement musulmane. C'était un jeune djoula dans le nord de la Côte d'Ivoire, et donc on a entendu son témoignage, comment miraculeusement il s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Ça serait un peu trop long à raconter, mais une histoire merveilleuse. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'en fait, lui, le jour où il est devenu chrétien, c'était le début de tous ses problèmes. Mmh. C'était le début de tous ses problèmes.
Alors que d'habitude, on ne vend pas ça.
Parce qu'en fait, le jour où il est devenu chrétien, c'était le rejet. C'était ouais. l'opposition, l'hostilité, tentative d'empoisonnement, etc., etc. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui... Et il était le premier à dire, pour rien au monde, il changerait. Wow. Et donc, c'est un peu comme dans mon histoire de tout à l'heure avec le salut. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, vraiment, pour quelque part suivre Jésus, soit pas remis en cause par le fait que maintenant, en fait, ta vie est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était avant. Et cela doit quand même nous interpeller quelque part.
Est-ce qu'on a raison, du coup, de prêcher Jésus est la solution à tous nos problèmes ? Viens, Jésus, tu vois, si tu traverses une difficulté, si tu... viens, Jésus.
Je pense qu'il y a clairement une place pour ça. Donc, tout est dans la notion d'équilibre, en fait, justement. Mmh. Et tout à l'heure, on parlait des Écritures, mais justement, peut-être le mot d'ordre, c'est est-ce que nous prêchons toutes les Écritures ? Il y a Paul qui parle, je crois que c'est dans Acte 20 de mémoire, où il évoque aux chrétiens d'Éphèse, lorsqu'il les revoit, qu'il leur a enseigné toutes les Écritures, tout le plan de Dieu. Et je pense que c'est peut-être là où il y a quelque chose qui pourrait nous interpeller, c'est que quelque part, si en effet, nous avons juste quelques dadas que l'on aime mettre en avant, et même de notre Seigneur Jésus-Christ, il peut y avoir ce danger de ne se focaliser que sur certains aspects. Et ça va dans les deux sens, quelque part. Certaines églises aurait plutôt tendance à aimer un peu un Jésus intellectuel, très humaniste, etc. Et puis passe tout sous silence le Seigneur qui parle avec autorité aux démons, qui guérit. Non, il est clairement dans les Écritures, ce Jésus-Christ-là. Et peut-être d'autres, en effet, qui aiment que la version un peu surnaturelle, spectaculaire, bien sûr. Mais que fait-on du Jésus qui va dans le désert, qui passe des nuits à prier seul quand personne ne le voit, qui nous dit, si tu veux prier, va dans ta chambre. Le Père qui est là, qui voit... dans le secret, lui te le rendra. Est-ce que j'arrive à prier même si je sais que personne sait que je prie ? Est-ce que ça me suffit ? Ou est-ce que si je prie, j'ai besoin, vous savez, j'ai prié, hein, et puis j'ai même jeûné, et qu'on a envie discrètement un peu d'étaler notre piété ? Ça aussi, donc je pense que c'est prenons l'intégralité quelque part, pour nous auto-corriger d'éventuelles déviances.
Wow, merci. T'as commencé à parler de... souviens-toi de Jésus et de comment... en fait, c'est Paul qui dit ça à Timothée, quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps. Comment dans la vie chrétienne, on peut parfois oublier Jésus ? Tu l'as dit, peut-être parfois le ministère même peut prendre la place de Jésus. Comment finalement vivre Christ seul au quotidien ? Pourquoi nous aussi, les chrétiens, on a besoin de se recentrer sur Jésus ?
Je pense qu'il est intéressant de bien distinguer notre salut au sens ce moment de rachat que l'apôtre Paul aussi parle sous le couvert de l'adoption. Si demain, avec mon épouse, nous adoptons un enfant, à l'instant T où les papiers, où l'adoption est scellée, ça y est, il est notre enfant. Il porte notre nom, donc d'un point de vue juridique, etc., tout est réglé. Et pourtant, on pourrait presque dire, il n'est pas encore notre enfant. Parce qu'en fait, notre vécu ensemble est hyper réduit. Et donc, il est notre enfant et il va devenir notre enfant. Et nous allons devenir. Et donc, je pense quelque part, dans ce sens-là, il y a une prise de conscience à avoir en tant que chrétien. C'est que lorsque nous comprenons ce que Jésus-Christ a fait à la croix et que nous plaçons notre confiance dans ce sacrifice, qu'il est le seul à avoir compris, nous devenons enfants de Dieu, par la pure grâce de Dieu. C'est la parole qu'il affirme dans bien des textes. Et en même temps, ce n'est que le début. je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, mais je vais devenir en même temps enfant de Dieu. Et c'est là où je reviens finalement ce que je disais, où toute la notion de relation du disciple peut vraiment nous aider, parce que quelque part, il y a un début fabuleux qui est la nouvelle naissance, qui est l'œuvre de l'Esprit, qui rend tout possible. Sans ce point de départ-là, il n'y a pas de suite. Mais une fois qu'il y a cette suite, il y a ce danger de s'arrêter là, de se contenter de cela, et finalement de devenir un peu des bébés qui restent des bébés. Et je pense que c'est là où il y a vraiment cette invitation. Et là, pour nous y aider, personnellement, ce qui m'a aidé, c'est l'image du maître et des disciples, donc du fait que maintenant, j'apprends. Et donc, si demain, on adopte cet enfant, bien sûr, il est notre enfant. Mais au bout de quelques mois, il va apprendre à marcher. Il faudra qu'on soit là. Et puis, pour apprendre à marcher, il va falloir tomber un peu. Mais ce n'est pas grave, il est toujours notre enfant. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas marcher à 10 mois ou à 11 mois ou à 12 mois qu'il cesse. Non, son statut, il est acté. Mais son apprentissage, il est en cours. Et donc, peut-être une des questions qu'on doit plus souvent se poser et se poser dans nos églises, c'est sommes-nous en train d'apprendre aux gens à devenir comme Christ? Pas juste à accepter Christ, c'est le départ, et il est extrêmement important. Mais peut-être on s'est trop longtemps cantonné à juste une partie du message. On invite, on appelle, mais on ne forme pas, ou on n'enseigne pas pour maintenant cette progression. Et il y a un équilibre.
Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui voient le baptême, par exemple, comme un objectif.
Oui.
La ligne d'arrivée, alors que...
C'est le grand classique.
Là, souvent, il y a une formation, une préparation au baptême. Il n'y a pas forcément une formation d'après-baptême.
Absolument. Ouais.
Et qu'est-ce que tu penses qui peut prendre la place de Jésus? Parfois, dans la vie chrétienne, on place finalement notre foi en autre chose, notre sécurité, notre confiance, notre bonheur en autre chose qu'en Jésus, sans s'en rendre compte. C'est là où le message de la Bible, il est radical. Dieu est un Dieu jaloux. Et parfois... Moi aussi, je pense qu'on peut être tous tentés par remplacer Christ par d'autres choses. Comment combattre ça, cette forme d'idolâtrie du cœur?
Ouais. En effet, c'est un vrai danger pour nous tous. Ça peut être notre Église. Si on a la joie d'être dans une Église, on se sent épanoui. Subtilement, quelque part, notre Église peut devenir finalement notre source de sécurité, de réconfort, de joie, et au final devenir une forme d'idole. Et ça pourrait paraître bien, je dis, ben non, aimer l'Église, ça peut pas être mal. Bien sûr que c'est pas mal quelque part, mais si finalement elle m'apporte plus de sécurité, plus d'épanouissement, plus de valeur que m'apporte Jésus, finalement oui, j'ai transformé l'Église en ce qu'elle n'était pas appelée à être, quelque part. Parce qu'elle n'est pas mon sauveur, et on le sait, toute église locale, aussi riche soit-elle en termes de communion fraternelle, aussi belle soit-elle, reste imparfaite. Ça peut être une doctrine. Tout d'un coup, on peut s'enflammer pour une cause chrétienne ou une doctrine chrétienne, et inconsciemment, elle devient presque plus importante, et on commence à passer tout le monde au crible de cette doctrine-là, comme le curseur essentiel, plutôt que Jésus. Et donc, du coup, je pense que voilà, il y a pas mal de choses. Ça peut être une culture, ça peut être l'amour qu'on a pour son pays. On l'a vu dans l'histoire de l'Église, où parfois, certaines formes de patriotisme chrétien devient plus important que l'enseignement de Jésus lui-même. Et donc, je pense que, hélas, on a... je ne sais plus quel auteur disait que voilà, le cœur de l'homme, c'est une fabrique à idoles, une usine à idoles, et il y a ce risque-là. Donc je pense qu'en effet, il nous faut constamment revenir et se dire qu'est-ce qui prend de la place. Le pasteur Tim Keller a écrit sur ce sujet-là un très beau livre, Les idoles du cœur, et il nous invite à identifier, parce que c'est d'autant plus difficile quand ce sont de bonnes choses, à première vue. Mais quand ce sont de bonnes choses qui ont pris un caractère un peu d'absolu, c'est une chose qui, tout d'un coup, dont on attend trop. Et une des questions qui invite, je crois, à se poser à un moment donné dans le livre, c'est quelque part, ok, si on me retire cet aspect-là, quelle est ma réaction? Si je change d'église locale et que ma vie s'effondre, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si tout d'un coup, je découvre que peut-être cette doctrine-là, c'est juste une parmi tant d'autres, mais que peut-être que ma vie s'effondre, c'est que j'ai placé ma confiance ailleurs qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Christ qui fait que ma vie ne s'effondre pas, en fait. Elle tient, même dans les orages. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus dit clairement, si quelqu'un veut me suivre, il doit être prêt à renoncer à ça. Et ça, c'était vraiment, quand j'étais ado, c'était vraiment des phrases, tu sais, quand même, là, c'est un peu bizarre, renoncer à ses parents, sa famille, son frère... Et je pense que quelque part, il y a une réalité, il y a aussi une volontairement de la part du Seigneur Jésus, une formulation très provocante, mais finalement, on se heurte de nouveau à ces paroles où seul Jésus parle comme ça. La plupart du temps, on est d'accord, tu peux m'avoir, moi, plus tout le reste.
Oui.
Mais quand on a Jésus-Christ et qu'il est clairement au centre, toutes ces autres choses qu'il nous donne, qui sont bonnes, prennent une place, mais une juste place. Mais on le sait quelque part, c'est que lorsque Christ n'est pas vraiment au centre, notre cœur est prêt à y mettre n'importe quoi à la place.
Mmh.
Et donc, une des bonnes manières, c'est de dire, bah, si, est-ce que je suis prêt à renoncer à ça? Si demain, je dois faire un autre métier? Si demain, je n'ai plus ce don-là et auquel j'étais attaché? Ou si demain, etc. Donc ça peut être une forme de question pour s'auto-examiner. Si quelque chose prend plus de place, mon ministère?
Mmh.
Si demain, je ne suis plus pasteur et que ma vie s'effondre, est-ce que j'aurais mis trop de mon identité dans ma vocation, dans mon appel? Le danger est pour tout le monde.
C'est intéressant, cette question d'identité. Hein. C'est ouais. Un sujet un peu d'actualité aussi. Parfois, des gens cherchent leur identité dans toutes sortes de choses. Moi, je suis d'origine canadienne et italienne. Je pourrais peut-être me sentir plus canadien-italien que chrétien, qu'enfant de Dieu. Il y a ce besoin d'identité, ce besoin d'appartenance aussi. Il y a des combats politiques parfois qui prennent une place très importante. Comment faire la différence? Comment se dire, parce qu'il y a des combats qui sont justes aussi, qui méritent d'être combattus. Mais à quel point, à quel moment ça prend la place de Jésus et du combat, du bon combat de l'Évangile?
Certainement les fruits. J'aurais tendance à dire. Je pense à des moments de ma vie où des fois je me suis enflammé pour certaines causes qui étaient chrétiennes, qui étaient bibliques, etc. Mais j'ai réalisé que à ce moment, en fait, la cause fait que je m'autorisais presque à c'était plus important pour moi d'être passionné pour cette cause-là que est-ce que j'ai de l'amour et de la douceur pour les autres.
Mmh.
Et là, je pense que le Seigneur a dû me travailler là-dessus et me dire, mais quel que soit le zèle que tu mets, la cause que tu poursuis, aucune à mes yeux ne justifie que je m'octroie le droit de manquer d'amour pour mon prochain, etc., etc.
Tu parlais aussi de ce risque de faire de certaines doctrines une idole. Ouais. C'est bizarre dit comme ça, parce que bon, moi je suis attaché à la sainte doctrine, à la parole et tout. Je me dis non, il faut combattre pour protéger l'Évangile et tout. Mais effectivement, si ça devient un combat où finalement tu reflètes pas le caractère de Christ dans ce combat-là, tu peux combattre pour l'assurance du salut et les cinq solas et pour, je sais pas moi, le calvinisme.
Ça, voilà.
Tu peux combattre pour ces principes-là, mais à un moment donné, si dans ce combat-là, le fruit de l'esprit n'est pas en toi, bah, c'est déjà un symptôme que ça devient une idole.
Absolument. Mmh. Et notre Seigneur nous montre que voilà, et là c'est un chemin où je prétends absolument pas avoir encore pu marcher, mais qui m'émerveille quand même dans sa vie et dans la vie de beaucoup d'autres chrétiens qui l'ont suivi, c'est qu'on voit que le Seigneur, lui, nous montre que pour un chrétien, suivre Jésus et défendre telle ou telle cause liée vraiment à l'Évangile, le prix c'est pas de, que je suis prêt à tuer ou à écraser l'autre, mais est-ce que je suis prêt à donner ma vie? Et je pense que c'est là, il y a un appel que là aussi on a besoin de redécouvrir vraiment. Ok, j'ai à cœur, mettons, tel aspect, je sens que l'Église a besoin de redécouvrir ça. Est-ce que je vais défendre cela par la force, etc. Ou est-ce qu'en fait je vais le faire avec l'humilité qui caractérisait mon Seigneur? Est-ce que je vais le faire avec vraiment sa disposition de cœur? Et je pense que là c'est une fois de plus c'est une profonde leçon que l'on doit redécouvrir et s'encourager mutuellement, parce que je pense que c'est difficile seul. Mais je pense qu'il y a, cette dimension vraiment importante de suivre Jésus-Christ aussi, et tout à l'heure dans le Christ seul, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est Christ seul dans la méthode aussi. La méthode de la croix qui précède la gloire, qui précède la résurrection. Et je pense que oui, on a parfois inconsciemment un peu un évangile où comme on veut voilà, être plus que vainqueur et on bascule un peu dans un triomphalisme et on est prêt à plutôt écraser. Et
c'est pas comme ça que Dieu agit.
C'est pas comme ça que Dieu agit, c'est pas comme ça que le Seigneur Jésus a agi envers tous ses adversaires et ennemis. Récemment, j'étais dans une étude méditative là, des évangiles, j'ai été frappé à quel point le Seigneur Jésus-Christ a dû faire face, parfois dès le début de son ministère, à l'opposition. constamment. Les reproches, les accusations, sa famille qui ne comprend pas qui il est, les autres qui l'accusent de faire tout ça par le pouvoir de Belzébul. Voilà, son village natal qui ne le reconnaît pas. Et je me disais, ça a dû être quand même profondément éprouvant de savoir que le Seigneur ne fait que le bien avec les motivations les plus pures qui soient et d'être pourtant accusé. Et pourtant, le Seigneur, à aucun moment donné, ne, à part quelques discours de jugement vers la fin, mais à aucun moment donné, quelque part, renvoie coup pour coup, insulte pour insulte. Il arrive constamment à maintenir une certaine estime et respect, même s'il est en total désaccord, quoi. Mais il n'écrase pas son adversaire.
Bah, la victoire de Jésus, c'est au prix de sa propre vie.
C'est ça.
C'est ce que tu dis, c'est le sacrifice, en fait.
Ouais.
Et dans la défense de la foi chrétienne, moi, j'ai déjà vu différents exemples, bons et mauvais.
Ouais.
Et je me rends compte que ce qui a le plus d'impact, c'est de défendre la foi avec douceur, avec humilité. Il y en a qui, à tout prix, veulent avoir les meilleurs arguments. Et
le dernier mot.
Voilà, c'est ça. Et des fois, c'est pas ça qui fonctionne, au final. Et c'est vrai que Dieu agit parfois à travers la douceur, parfois à travers le sacrifice, la souffrance aussi.
Absolument.
Toute souffrance ne vient pas du diable. Parfois, il y a cette vision de la vie où toutes les mauvaises choses, c'est le diable, c'est le diable.
Ouais.
Et non, parfois, Dieu agit aussi à travers ces choses difficiles. Et ça nous montre ce principe que Jésus a incarné lui-même.
Ouais.
C'est qu'il est venu régner en maître. Et comment il l'a fait? Il l'a fait en se faisant serviteur et en offrant sa propre vie.
Ouais.
Merci beaucoup, Manu.
Avec grand plaisir.
Il nous reste 30 secondes et j'aimerais que tu t'adresses à quelqu'un qui nous écoute pour lui annoncer en 30 secondes Christ. Annonce-lui Christ.
Eh bien, mon cher ami, ce que j'aimerais vraiment de tout mon cœur t'encourager à faire, prends un évangile. Si tu n'es pas un grand lecteur, lis l'évangile de Marc, lis de près, vois Jésus dans cet évangile, écoute ce qu'il dit. Et sur la base de tout ce que tu vas personnellement découvrir, décide, est-ce que je veux suivre cet homme? Et je prie vraiment pour que tu puisses faire cette démarche devant Dieu et réaliser que oui, il existe un homme, le Fils de Dieu, qui est digne d'être suivi, deviens son disciple. C'est ma prière pour toi.
Amen, et je me joins à cette prière. Merci beaucoup, Manu.
Avec plaisir, Jonathan. Merci à toi, vraiment. C'était un grand plaisir.